France Culture. Nom de code, Ave Maria. Cet homme, vous ne l'avez jamais vu ni entendu. Pas de déclarations fracassantes à la télévision, de portraits enrubannés, pas de propos distillés à la presse. Ce ne sont pourtant ni la matière ni la verve qui lui font défaut. Il a longtemps exercé l'une des plus cruciales et des plus mystérieuses charges de l'État. Alexandre de Maranche a dirigé pendant près de 11 ans les services secrets français sous deux présidents, Pompidou et Giscard d'Estaing. Un prix de longévité que lui accordent même ses collègues occidentaux de la CIA et du MI6. Un record d'indépendance et de mutisme aussi, à ce poste tant exposé aux caprices de la politique et aux risques du métier.
Alexandre de Maranche, conte et légende. Michel Pomarède, Benjamin Hou. Premier épisode, un aristocrate chez les Barbouzes.
Surnom Porthos.
Le surnom, comment dire, désagréable que leur portent certains de ses membres du SDEC, c'est le pachyderme.
Le journaliste Jean-Christophe Notin.
Parce que 1m90, plus de 120-130 kilos, c'est une masse. Mais c'est un charisme. C'est un mélange de un peu Philippe Noiret et Errol Flynn. C'est la moustache coupée très court, les cheveux gominés, un charme absolu, une manière de s'exprimer à l'ancienne, hein, donc pleine de forme, pleine de délicatesse qui impressionne beaucoup, un art de l'anecdote, de l'histoire. Donc il est très rare que les gens ne succombent pas au charme de Maranche.
Et c'est vrai que de Maranche, c'était un colosse, une grande gueule, grande allure, enfin c'était un personnage. Et c'était au départ un comte des argentés, hein. C'est sa femme qui avait de l'argent, hein. C'est Liliane, hein, qui avait l'argent, c'est pas lui. Hein. Ça les gens n'ont pas souvent compris.
Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE.
Mais lui par contre, c'est un homme de panache, c'est un peu Cyrano. Hein. Pour moi, hein, ça ressemble un peu, c'est le genre si vous voulez. Ce colosse, il avait besoin d'exister, mais exister, de paraître, si vous voulez. Donc il y avait tout un numéro autour de lui. Il s'était construit une image, en définitive, qui lui correspondait très bien. Mais pour pouvoir vivre, si vous voulez, il n'était pas préoccupé au niveau philosophie, il n'avait pas des problèmes moraux majeurs. Non, si, il vivait une grande vie, en définitive. Maranche, je l'ai rencontré, je devais avoir même pas 10 ans d'ailleurs, ouais, 7, 8, 9 ans, avec mes parents. Mon père le connaissait bien, ma mère le connaissait très bien aussi, ils étaient amis avec lui, et il avait à l'époque un château dans Normandie qui s'appelait Les Rotoirs et qui a été racheté par le Club Med. Et moi, mon premier souvenir de Maranche, c'est que j'arrive dans ce château, mes parents m'avaient dit, tu vas voir quelqu'un de très bien. Alors à l'époque, il n'était pas dans les services, hein, il était homme d'affaires, et, bon, et mon père était préfet, donc ouais. Et il me dit, tu vas voir quelqu'un de très bien. Bon, très bien, moi content. Bon. Et j'arrive et ça m'avait fasciné parce qu'on avait été recueilli par un maître d'hôtel qui était en livrée comme dans Tintin à Moulinsart. Vous savez, le gars avec des rayures. Et ça, toute ma vie, ça me restera. On voit le gars qui nous accueille avec son gilet à rayures, qui lui dit, monsieur le comte vous attend. Alors là, j'ai dit là. Et comme tous les gamins de l'époque, je lisais Tintin. Moi, ça m'a marqué. J'ai dit, je suis chez Tintin, quoi. Et ça, c'est mon premier contact.
Il est passionné de politique étrangère. Et il a, dans ce domaine, une clarté de vue que je ne connais à personne d'autre.
Lettre de Pierre Messmer à Georges Pompidou.
Il est indifférent à la politique intérieure, ce qui est une rare vertu au SDEC. Il est enfin, pour son chef, d'une fidélité dont témoigne son attachement jusqu'à la mort au maréchal Juin. Si vous décidez de donner au SDEC un directeur soucieux seulement des affaires extérieures, loyal, indépendant de toute hiérarchie politique, militaire, administrative, Alexandre de Maranche est le meilleur que vous puissiez nommer.
On est là dans le cœur de la nomination de Maranche. C'est une lettre que un informateur nous a fournie quand on a fait notre film sur l'histoire des services secrets avec David Plombrosa.
Le journaliste Jean Guinel.
Et elle explique un point très très important de l'histoire des services secrets en France. Parce que avant qu'Alexandre de Maranche soit nommé, depuis la libération, on a eu Passy, donc l'homme du général, on a eu Henri Ribière et Pierre Boursicot, qui sont des socialistes tendance Guémolais. Et puis après, on a eu une série de trois généraux. On a eu Paul Grossin, Paul Jacquier, Eugène Guibaud. Et dans la lettre que vous citez, tout à fait précisément, Pierre Messmer écrit aussi « Plusieurs expériences font penser qu'un général n'est pas habituellement un bon directeur d'une telle maison. Il serait facile de montrer pourquoi. Pour d'autres raisons, je crois que c'est un fonctionnaire civil qui ne réussirait pas mieux. » En fait, Pierre Messmer cherche pour Pompidou quelqu'un qui pourrait faire table rase de la période qui a été celle durant laquelle une structure du SDEC qu'on appelle la base Bison, c'est-à-dire la base du SDEC qui agit à Paris, s'est prêté à des manœuvres tout à fait dégueulasses contre Madame Pompidou pour, dans une conception étroite du soutien au général de Gaulle, démolir Pompidou. Et Pompidou ne veut plus de ça. C'est impossible. Le SDEC fait partie de ceux qui lui ont manqué, selon sa formule. Et il a besoin de quelqu'un complètement détaché de ces manœuvres immondes qui ont entouré la fin des années de Gaulle. Et donc, on sort de l'affaire Ben Barka, on sort de l'affaire Markovitch, celle dans laquelle Claude Pompidou a été, de manière horrible, traîné dans un chantage sans fondement. Et la présentation que fait Messmer répond à ces questions que se pose Pompidou. Et effectivement, Marenche n'est pas du tout dans le jeu des partis. Il n'est pas concerné par la politique nationale, il est indifférent aux jeux politiciens, enfin oui, on peut dire ça. Surtout, il est très riche, donc il n'est pas susceptible de taper dans la caisse ou d'être sensible à des arguments, aux arguments qui frappent les corrompus. Donc, c'est un choix qui va se révéler assez judicieux, parce que Marenche va rester aux affaires pendant extrêmement longtemps, jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand. Donc, cette indépendance-là que cherche le dirigeant politique qui est à la manœuvre pour le SDEC, c'est-à-dire le président de la République, il lui faut quelqu'un d'absolument loyal et qui ne soit pas sensible aux arguments des autres entités de la vie publique. Et pour ça, Marenche, il était absolument idéal. C'est un oiseau rare que Messmer a dégoté.
Porthos, il en a la stature. Ajoutons-y la noblesse d'Athos, la manière d'Aramis, le courage de D'Artagnan. Quatre mousquetaires en un, raccourcis qui ne lui déplairaient pas puisqu'ils sont cavaliers, paillards et roublards à leurs heures. Un peu trop populaire sans doute, un peu trop voyant. Le comte de Marenche est par goût, par tradition, un homme discret, par profession aussi, ou plutôt par occupation.
1970, Alexandre de Marenche arrive à la tête du SDEC. Qu'est-ce que c'est le SDEC ?
Alors, le SDEC, c'est le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Donc, ce sont en fait les services secrets français, ce qu'on appelle les services secrets, les services de renseignement. Alors, avant le SDEC, il y avait la DGER, Direction Générale des Études et Recherches, et avant, il y avait le fameux BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, qui sont les services secrets du général de Gaulle. C'est à l'époque encore un service très militaire. Ce sont beaucoup d'anciens résistants. Et beaucoup d'anciens, en fait, des services, parce que on oublie, ça vient du BCRA, mais ça vient aussi des services du général Giraud, des services de Vichy. Donc c'est un amalgame de gens qui, politiquement, s'entendent pas forcément. Et ça va être un des travaux de Marenche d'unifier un peu tout ça. C'est un peu une pétaudière à l'époque. Le SDEC est en lambeaux. Parce que pas utilisé, le général de Gaulle n'a pas beaucoup d'appétence à utiliser ce genre d'outils, et surtout il y a cette crise majeure de Ben Barka en 65, donc l'enlèvement d'un opposant marocain auquel participent des officiers du SDEC, non pas le SDEC, ce sont des officiers qui se sont dévoyés, mais évidemment ça a fait un scandale absolu, le général de Gaulle a changé la tutelle. Ça n'a l'air de rien, mais enfin, c'était une manière de le dégrader. Il est passé de Matignon à ce qu'il est maintenant, donc le ministère de la Défense à l'époque, le ministère des Armées aujourd'hui. Et donc, c'est un service qui, en fait, ne travaille très peu parce qu'il n'est très peu... On lui demande très peu de choses. Donc, en fait, il ne fait rien ou il tourne en rond. Et ça va être une des orientations du Marenche, de lui trouver un sens.
J'avais, avec mes intimes, surnommé le service « le millefeuille ».
Alexandre de Marenche, dans son livre de souvenirs, dans Le secret des princes.
Tellement de couches, de strates s'y étaient accumulées comme en géologie au cours des années qu'il n'y avait aucune espèce d'unité. Le service passait son temps à lutter contre le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement contre la DST, qui en faisait autant. Au cours de ces guerres tribales que nous adorons, nous perdons une énergie et un temps précieux, alors que nous aurions dû nous concentrer sur la mission du service qui était le renseignement sur l'étranger.
Ce qu'il faut bien voir une fois de plus, parce qu'on a tendance à juger le SDEC comme on juge aujourd'hui la DGSE. La DGSE maintenant joue un rôle majeur et heureusement dans le fonctionnement de l'État français. À l'époque, c'est pas du tout le cas. Voyez, on se désintéresse complètement du SDEC. C'est considéré comme une espèce de pétaudière remplie de barbouzes. C'est à cette époque que date ce terme. Donc, à vrai dire, Pompidou, il sait pas quoi faire du SDEC. Il se dit, bon, ben, je vais mettre quelqu'un qui nous paraît sûr, parce que Marange, pour le coup, a vraiment été très loyal au maréchal Juin. Donc, c'est un, on se dit, c'est un homme de confiance, c'est un homme qui ne trahira pas. On le met à la tête du SDEC pour qu'en fait, il évite que le SDEC parte dans tous les sens et reproduise ce qu'il a fait dans les années 60. Et en cela, il va tout à fait réussir son objectif.
Une des premières mesures que j'ai adoptées, avec bien entendu l'accord du président de la République, a été de purger le service de ce que l'on appelle vulgairement les barbouzes. Un service, c'est d'abord le service de l'État. Qu'il y ait des gens à côté qui fassent leurs petites affaires sous prétexte de renseignements ou d'affaires plus ou moins louches, je ne veux pas le savoir. Ces gens-là doivent être éliminés tout de suite.
Et donc il y a cette scène fabuleuse que m'ont raconté tous les anciens, où Marange arrive au SDEC à l'époque. Donc il arrive à son bureau à Mortier, premier jour. Il fait défiler toutes les personnes qu'il sait qu'il faut éliminer. Il leur demande « Alors vous, vous êtes qui ?» La personne dit « Bon, ben, je suis directeur. » Et Marange de leur dire « Vous étiez, monsieur. » Et hop, ça veut dire que la personne était sortie, devait sortir. Donc il en a bien, je dirais, licencié une bonne cinquantaine de cadres importants du SDEC. C'est considérable.
Il n'y a pas 36 politiques, il y a la politique de l'État, de la France, que le directeur général, dans ma vision, est chargé d'appliquer. S'il n'est pas d'accord avec cette politique, qu'il le dise, et si on veut lui forcer la main, il a toujours à sa disposition l'arme ultime de sa démission.
Jean-Christophe Honnotin, le SDEC, combien de divisions ? Par rapport au MI6 ou à la CIA ?
Alors, le SDEC, à l'époque, ça doit être 2-3 000, peut-être, on va dire, employés de manière générique. Mais c'est un budget, alors ça doit être à peu près une petite centaine de millions de francs. Donc, c'est à l'échelle, c'est déjà 6 fois moins que le MI6, donc les services britanniques. C'est 15 fois moins que la CIA. Et ce ratio, d'ailleurs, perdure toujours de nos jours. Le budget de la DGSE actuelle est aux alentours d'un milliard d'euros. Celui de la CIA, c'est 15 milliards, grosso modo. On a toujours ce rapport d'échelle qui en dit long sur la difficulté de la France vis-à-vis de son service de renseignement extérieur.
On savait que le service était pénétré par les Russes, hein, par les Américains aussi, hein, mais par les Russes. Les grands pays étrangers avaient des gens infiltrés dans le service et il n'y avait rien de se passer. Alors ça aussi, ça énervait un petit peu, parce qu'il y avait des fuites, comme on dit. Hein. Donc, c'est là où Pompidou a dit, il me faut quelqu'un qui soit pas inféodé au militaire, pour qu'il ne soit pas tenu par le système militaire, dont on soit sûr qu'il ne soit pas trop pour les étrangers, et surtout pas pour les Russes à l'époque. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Alors, son anticommunisme lui donne des œillères, sans doute. Peut-être qu'il ne mesure pas très bien certains enjeux, notamment en Afrique. Il va beaucoup aider Jonas Savimbi, qui est soutenu par l'Afrique du Sud en Angola, parce qu'il lui paraît être un champion de la culture occidentale et de la vision occidentale du monde dans cette partie de l'Afrique. Et il est anticommuniste indiscutablement. Simplement, dans le monde du renseignement, dans les pays de l'OTAN surtout, enfin, ou dans la partie qu'on appelle l'Occident, tout le monde est anticommuniste. Il est anticommuniste, il est virulent, il est un très ardent pourfendeur des ambitions de Moscou, mais ça le caractérise pas nécessairement, c'est-à-dire tout l'appareil de renseignement occidental est à la même enseigne.
Et c'est vrai que de Marange, c'était un personnage. Et il a imposé sa marque au service d'une manière absolument incroyable. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Il n'y a que lui pour oser faire des choses comme ça dans la République, quand même. Hein. Quand il est arrivé au service, la première fois qu'il a mangé au restaurant, la salle, pour inviter les gens de l'extérieur qui venaient, les personnalités, les extérieurs, étrangères, bon, il a dit, mais enfin, c'est lamentable, il n'y a aucune allure. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son service de table avec ses armes. Vous voyez? Et donc, il recevait les gens, les directeurs de services étrangers, les ministres, les présidents, il recevait tout le monde. Hein. Et quand il les recevait là-bas avec les armes du comte de Marange. Enfin, c'est des trucs inimaginables. Mais pour les gens de l'étranger, ils étaient impressionnés parce que c'était un personnage.
Un humour assassin, une langue de vipère, et tout ça dans un cadre où moi je suis allé, vous savez, j'étais journaliste à Libération, j'étais voilà très content de faire mon métier, que je continue avec beaucoup de plaisir, mais si vous voulez, j'étais pas du tout d'un milieu où, ni professionnel, ni personnel, où je pouvais fréquenter des espaces comme ceux dans lesquels évoluait Alexandre de Marange, et il m'a invité à déjeuner au Jockey Club, où il était à son aise, et je me souviens d'un espace qui était un grand espace, je me souviens d'un grand salon circulaire avec des boiseries, et au milieu du salon, du grand salon, au milieu, une petite table unique, la pièce était vide, hormis cette table et les deux chaises, et sur une chaise, Alexandre de Marange, et sur l'autre, moi. Donc c'était un peu inattendu, et j'ai instauré ça. Et il était d'une franchise absolue, c'est-à-dire il adorait parler aux journalistes.
Le renseignement est une sorte de puzzle permanent, multiforme et polychrome, qui se fait et se défait sans cesse, un peu comme ces projecteurs colorés qui tournent dans les discothèques des jeunes.
Il avait cette vision du monde qu'on voit dans le livre d'entretien qu'il a fait avec Christine O'Crane, c'est-à-dire assez condescendant, beaucoup de mépris pour le vulgaire, très sûr de la justesse de ses points de vue, très imbu de la force de sa pensée, et en même temps tout à fait persuadé qu'il se situait, lui, très au-dessus du personnel politique qu'il avait fréquenté.
C'est d'après les formes que j'établis les plans qui mènent à la victoire. Mais ceci échappe au commun des mortels. Bien que chacun ait des yeux pour saisir les apparences, nul ne comprend comment j'ai créé la victoire. Sun Tzu.
La plupart des visiteurs d'Alexandre de Marange repartent avec un exemplaire de l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un geste romanesque, c'est quoi ?
C'est une manière de montrer qu'il a beaucoup réfléchi au service de renseignement, à son implication, à sa place dans la société, dans l'arche du monde. Et ça fait partie un peu, pour tout dire, de ses lubies. Il a lu Sun Tzu, Marange n'était pas un très grand lecteur. Donc ça fait partie de ceux qu'il a lu. Et donc il considère, il a été évidemment charmé, frappé, et il se dit, si ça a marché sur moi, ça doit marcher sur les autres.
Alain Juillet, la vision du monde d'Alexandre de Marange, c'était quoi ?
Alors c'est clair, alors lui il y avait l'Occident et le reste, hein. Mais il était très sensibilisé, il avait un avantage, c'est, je crois, par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'en définitive, oui, il était, on peut dire aujourd'hui on dirait qu'il était atlantiste, hein, par sa famille, par son expérience et autres, mais il s'intéressait beaucoup aux pays moyens, en développement si vous voulez, qui avait pour lui un potentiel. Par exemple, il avait créé un club qui s'appelle le Club Safari. Il avait appelé ça le Club Safari. Hein. Il avait créé avec ses relations, ses amitiés. Il y avait le roi du Maroc, il y avait le Shah d'Iran, il y avait l'Égyptien. Enfin, il y avait des gens de très haut niveau, des chefs d'État. Hein. Et là, il traitait lui avec les chefs d'État. Vous voyez, c'était Marange. Mais personne ne lui en voulait au niveau de l'État français. Parce que ce qu'il obtenait comme information par les relations qu'il avait, personne d'autre n'était capable de les avoir.
Alors, la vision d'Alexandre de Marange, je dirais, pour le coup c'est un avis personnel, mais moi je dirais que c'est la vision d'un aristocrate. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement concerné par les remous de l'époque, en tout cas les affaires françaises ne le concernent pas trop. Il s'intéresse aux affaires internationales, mais il s'intéresse aux affaires internationales quand les pays auxquels il s'intéresse sont dirigés par un souverain, souvent. C'est-à-dire, c'est ça qui le motive. Il trouve que c'est intéressant, que c'est un mode de pouvoir assez pratique, on s'embête pas avec les choses de la démocratie, et puis on avance. Donc, ou alors les très grands de ce monde, comme Ronald Reagan, dont il va être assez proche pendant les années Reagan. Donc, c'est quelqu'un d'une autre époque, je crois. C'est quelqu'un d'un autre temps.
Bon, je, d'ailleurs, le dit très rapidement à ses troupes, je ne lis pas. Donc la personne doit venir avec son rapport et lui dit textuellement « racontez-moi ». Donc il ne veut pas lire, donc le bureau est nu. Il a surtout installé au mur une immense carte du monde, avec centré sur l'ennemi de l'époque. Parce qu'il disait toujours « je veux voir comment les ennemis nous voient ». Donc elle est centrée sur l'URSS, sur la Chine. C'est une autre façon de voir le monde. Et d'ailleurs, une de ses exercices préférés également est de s'installer à la place du visiteur pour dire « je veux absolument voir comment les gens me voient ». Bon, c'est tout ça, c'est du théâtre hein, de la part de Marange, mais qui en dit long sur sa manière de conduire les affaires. Il n'est pas là pour se mettre les mains complètement dans le cambouis. Il va laisser beaucoup de marge de liberté à ses troupes. Ce qu'il veut, c'est du résultat.
Quand je suis arrivé en 1970, le service action, puisqu'on l'appelle ainsi, était réduit à l'état de squelette. Il m'a fallu assez longtemps pour le remettre sur pied parce que les militaires classiques n'aiment pas beaucoup voir des camarades disparaître vers des zones ombreuses. Plusieurs années ont été nécessaires pour obtenir des tableaux d'avancement d'une qualité égale à celle qu'auraient eu mes personnels militaires s'ils étaient restés dans l'armée normale. Alors qu'on devrait au contraire donner des points supplémentaires d'avancement aux gens qui sont prêts à ce genre de sacrifice.
Il était très aimé par son personnel, ça c'est vrai, parce que c'est un type qui faisait confiance, qui déléguait beaucoup. Il faisait confiance à ses collaborateurs, ça c'est sûr, et puis vraiment. Hein. Il avait une bonne équipe autour de lui qui travaillait. Roussin, là, qui est l'ancien ministre, hein, qui était son directeur de cabinet, hein, capitaine de gendarmerie, affecté au service, il devient son directeur de cabinet. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était une grande famille, si vous voulez. On n'était pas nombreux. Hein. Aujourd'hui, c'est une grosse bête, ils sont 6000 ou 7000, bon, ils se connaissent pas. À l'époque, pratiquement tout le monde se connaissait.
Alain Juillet, quand vous êtes nommé à la direction du renseignement en 2002 à la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, qui a succédé depuis 20 ans au SDEC, qu'est-ce qui reste dans la mémoire des gens du service d'Alexandre Maranche ?
Alors, je crois que c'est la figure qui a le plus marqué le service depuis la guerre. Enfin, il y en a eu deux, mais ils étaient ensemble. Alors, donc, il y a eu deux personnages qui ont marqué l'histoire du service. De Maranche, qui était le patron, on va y revenir, et puis De Marolle, le général De Marolle, qui était son directeur du renseignement, mais qui avant était le patron du service action. Et c'était deux hommes qui ont travaillé ensemble, qui s'entendaient très bien, et qui étaient au-dessus du lot par rapport à ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a eu après, il n'y a pas photo.
Entre 1970 et 1981, Alexandre De Maranche reste seul aux commandes. Et à partir de 1982 jusqu'en 2002, à la date où vous arrivez, il y a 8 remplaçants. Qu'est-ce qui explique la longévité de Demaranche et le turnover à la direction de la DGSE ensuite ?
C'est qu'on a remplacé quelqu'un qui était un professionnel par des amateurs. Le politique a commencé à nommer, et ça a continué ensuite, à nommer des hauts fonctionnaires, en général brillants, hein, c'était des gens de qualité, il n'y a pas de doute, mais qui n'étaient pas du tout du métier. Et les autres, c'était des diplomates. Les diplomates, moi je suis désolé de le dire, mais le diplomate, ça n'a rien à voir avec un homme de renseignement.
Réserver du temps pour le silence et la méditation devant la carte du monde. Car c'est votre décor.
Conseil à ses successeurs par Alexandre de Maranche.
J'ai toujours été désagréablement frappé de constater que dans le lieu de travail des plus grands chefs politiques, il y avait rarement des cartes ou une map monde. Méfiez-vous de vos sentiments personnels. Ils interfèrent dans la froide analyse. Entrez dans la peau et le mental de ceux que vous cherchez à comprendre. Ne vous prenez jamais au sérieux. Le courage et le sens de l'humour sont deux vertus cardinales. Enfin, ne manquez pas votre sortie. À temps.
Que ce sont des conseils extrêmement judicieux. Je trouve que regarder notre monde d'aujourd'hui, on est bien des années après sa mort, regarder notre monde d'aujourd'hui, la nécessité de se poser pour réfléchir et d'arrêter de courir tout le temps, ça reste aussi valable aujourd'hui que de son temps. La nécessité de lire les cartes, mais c'est une évidence absolue. Posons quelques cartes sur la table et on peut avoir une conversation qui dure des heures et des heures parce que beaucoup de choses se passent sur la carte. Ce qui se passe entre aujourd'hui sur la planète, ne serait-ce que l'arrivée de Trump, la guerre en Ukraine, les ambitions géopolitiques ou néocoloniales des uns et des autres sont d'une actualité tout à fait brûlante et ça reste particulièrement judicieux. Et quant au sens de l'humour, il est absolument indispensable. Il a disparu aujourd'hui, mais il est indispensable. Chez les grands, je veux dire. Aujourd'hui, ça, c'est fini, ça.
Est-ce que vous vous rappelez la devise de sa famille ?
Non, c'est une bonne question.
Tel-ci me pense à battre, qui se repent ? Qui s'y frotte, s'y pique ?
En quelque sorte, mais... Je ne dirais pas qu'il l'a pas forcément appliqué. Ce n'était pas quelqu'un de forcément revanchard. Il a quand même eu beaucoup de chance dans sa vie. Donc, c'est une belle devise à mettre sur le fronton de la maison, la maison Marange, qui n'existe plus. Enfin, nous verrons ce qui restera de Marange dans le futur.
Alexandre de Maranche, conte et légende. Un aristocrate chez les Barbouzes, avec les journalistes Jean-Christophe Notin, Jean Guinel et aussi Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE. Bibliographie complète sur le site de l'émission. Extrait du livre « Dans le secret des princes » dit par Olivier Claverie. Une histoire particulière, coordination Emmanuel Laurentin, chargé de programme Sandrine Chaperoux, mixage Eric Villenfin, réalisation Benjamin Hull, un documentaire de Michel Pomarède. Thank you.